De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là, fidèle au poste comme chaque vendredi pour De quoi je me mêle, toute l'actualité high-tech, vous le savez, sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Avec au menu tout à l'heure, Victor Jakimovic qui sera là. Victor qui ressemblera plus que jamais au Père Noël, je ne vous en dis pas plus, ça vaut le coup franchement de rester là et de regarder Victor tout à l'heure avec sa sélection de produits, de cadeaux high-tech pour Noël et notamment un drone qui vous suit pour faire des selfies. C'est pas le premier, mais celui-ci a un bon rapport qualité-prix. Il a aussi quelques spécificités techniques intéressantes, mais on en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez réagir au contenu de quoi je me mail avec le hashtag DQJMM sur Twitter. N'hésitez pas, on vous lit bien sûr et on répond à tout ce que vous nous dites. Et puis bien sûr sur la page Facebook de quoi je me mail. Soyez les bienvenus.
De quoi je me mail sur rmc.fr et 01net TV.
Et évidemment, ce 15 décembre 2017, on commence par le club de la presse IT. Éric Le Bourlou est à mes côtés cette semaine, comme chaque vendredi d'ailleurs. Éric, bonjour.
Bonjour.
Le rédacteur en chef de 01net.com et le sérieux entrepreneur Rafi Aladjian est là. Bonjour Rafi.
Bonjour.
Ravi de te retrouver Rafi.
Ravi d'être là.
Qui est, rappelons-le pour tous ceux qui ne le connaissent pas, est l'un des papas des objets connectés. Mais on en a parlé, vous n'avez qu'à retrouver les premières émissions de quoi je me mêle. C'était il y a quelques semaines, on vous expliquait tout. Rafi qui a une connaissance parfaite de tout ce milieu-là. Et vous allez vous en rendre compte dans un instant. Messieurs, première actu brûlante, j'allais dire. Et ça y est, la Commission fédérale des communications américaines a abrogé, c'était hier, le principe de la neutralité du net qui avait été, on va dire, édicté en 2015 par Barack Obama.
Tout à fait, ouais, c'était effectivement des règles qui dataient de 2015 et qui viennent d'être abrogées donc, par la Commission fédérale des communications, donc en gros l'ARCEP américaine.
Voilà. Dont le patron a été nommé par Donald Trump il y a quelques mois.
Exactement.
Hein, quand même, qui était un ancien patron de Verizon.
Exactement, très proche des milieux des télécoms,
évidemment. Bien évidemment. On peut expliquer ce que c'est, en fait, la neutralité du net et qu'est-ce que ça va changer, en fait, cette loi ?
Alors, ce que c'est simplement de dire qu'il n'y a pas de discrimination dans le trafic qui vous arrive en tant qu'utilisateur d'Internet, que les opérateurs n'ont pas le droit de prioriser certains trafics par rapport à d'autres, et que donc, a priori, n'importe quel site ou service que vous utilisez ira à la même vitesse qu'un autre site ou service sur lequel vous vous rendez.
C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui la compagnie des eaux, suivant qu'on paye plus ou moins, nous donnerait plus ou moins de débit pour la douche. En gros, c'est ça. Ou nous couperait l'eau chaude et nous laisserait de l'eau froide.
On pourrait en arriver là.
On schématise au maximum pour que vous puissiez comprendre.
Mais... c'est vrai que c'est un petit peu ça. Maintenant, ce que ça va changer, pour l'instant, pas grand-chose en vrai. D'ailleurs, les opérateurs américains disent que ça ne va rien changer pour les clients. Mais bon, on sait bien que si on abroge une loi, ce n'est pas pour rien. Et que sans doute qu'il y aura à terme de nouvelles offres qui vont émerger. Alors, ce ne sera pas dans 6 mois. Peut-être que ce sera peut-être dans 6 mois, mais a priori, ça va prendre un petit peu de temps. De nouvelles offres qui vont émerger, qui vont permettre aux opérateurs d'être plus souples, de faire du business un petit peu différemment et de pouvoir vendre différents services à leurs clients et d'avoir plus de contrôle en fait aussi sur le trafic qu'ils ont et ce qu'ils veulent mettre en avant.
Eric, ça veut dire qu'on pourra avoir, et Rafi, après, tu vas nous donner ton avis, on pourra avoir un Internet à plusieurs vitesses, un Internet pas cher, lent, un Internet un peu plus cher, plus rapide avec Netflix et YouTube, et un Internet ultra rapide où là, on serait prioritaire parce qu'on a payé plus cher.
C'est une possibilité, c'est aussi
On schématise, on caricature presque.
Ce qui pourrait être aussi possible, c'est par exemple des offres du type, on vous offre votre Internet avec Netflix par exemple, même si Netflix s'est tout de suite dit opposé à cette nouvelle législation, ils ont tweeté.
C'est pas dans leur intérêt. Hein,
non, aussi, pas du tout. Mais on vous offre un service en plus, gratuitement, avec cet abonnement, et au détriment, pourquoi pas, d'autres services concurrents. Ça peut être un des biais de la fin de cette neutralité du net. Maintenant, on va voir concrètement comment ça va se transformer en offre commerciale. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les opérateurs sont quand même soumis à une concurrence. Donc, effectivement, il faut faire quand même très attention pour eux, de leur côté, à ne pas faire des offres qui vont décevoir leurs clients. Sinon, ils vont basculer chez quelqu'un d'autre.
Parce qu'on sait qu'il est plus facile de perdre des abonnés que d'en gagner.
Ça, c'est sûr.
Si un opérateur devient impopulaire parce que, justement, il profite de cette loi, les autres peuvent en profiter, justement.
Exactement, pour les récupérer.
Docteur Rafi, c'est grave la neutralité du net qui saute aux US ?
Bah, oui, enfin, c'est triste parce que c'est les principes fondateurs de l'Internet et de l'égalité des chances de tout le monde vis-à-vis du client qui saute. Bon, d'un autre côté, cette neutralité, ça faisait un moment qu'elle n'existait plus parce que c'est peut-être pas les opérateurs qui contrôlaient le contenu, mais quand on regarde les GAFA, c'était déjà un moyen de contrôler un accès honnête, c'est-à-dire que cet accès direct à l'attention de l'utilisateur, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas, pas de la faute des opérateurs, mais par la force des GAFA, qui est encore plus redoutable, je pense, parce que là, du coup, la concurrence n'existe pas réellement entre eux. Je pense qu'il y a un autre modèle qui est possible pour les opérateurs, c'est que c'est précisément de vouloir leur part du gâteau, c'est-à-dire de faire payer Netflix et de faire payer, je ne sais pas s'ils pourront faire payer Google, mais en disant bon, aujourd'hui on a construit des infrastructures pour que vous puissiez vous développez et vous vous êtes développé, mais nous, pour le coup, on gagne exactement la même chose. Donc, il peut y avoir une répercussion sur le tarif payé par l'utilisateur, mais il y a aussi peut-être la possibilité de faire payer des redevances. Ce qui revient par ailleurs...
Finalement, pour le client, ça ne changerait pas grand-chose. Ça améliorerait peut-être même la qualité de service.
Ben, ça changerait la chose, c'est-à-dire que les services riches pourront pouvoir se payer l'accès à l'attention de l'utilisateur. Oui. Mais si vous êtes un outsider, une start-up qui démarre aujourd'hui pour faire le concurrent de YouTube. Vous allez devoir avoir les poches profondes pour pouvoir vous payer ça. Donc c'est surtout en termes d'entrepreneuriat que ça va se faire.
Rafi, c'est pas un peu normal que les opérateurs demandent un peu d'argent au Google, au Apple, au Netflix, qui se servent en fait de toute leur structure technique pour diffuser leur contenu? C'est pas légitime que Netflix.
Non, c'est légitime. C'est
Google
pour ça que le
débat, et
le débat
de
est beaucoup plus complexe
voilà,
qu'on ne
ça,
pense. C'est-à-dire qu'on peut dire salaud d'opérateur et la liberté du net, mais d'une part, les salauds, ils sont partout. Et ce qu'on cherche, c'est malgré tout le modèle qui dit est-ce que demain, une start-up qui démarre et qui essaye quelque chose, c'est-à-dire le YouTube à sa création, est encore possible aujourd'hui, où tout ça permet de verrouiller globalement une situation de fait où les très riches ne vont pas avoir beaucoup de mal à payer Verizon, etc. pour avoir un accès à l'utilisateur. Eux, ils vont gagner leur vie probablement en faisant payer les fournisseurs de contenu plus que les... Parce que, comme tu disais, la concurrence est quand même rude. Ils ne vont pas aller chercher l'argent dans la poche du client. Donc finalement, ce qu'on perd, c'est en diversité, en création de nouveaux contenus. C'est surtout là le problème. C'est pas tellement sur les coûts.
Mais ce n'est même pas sûr, Rafi. Ce n'est pas parce qu'il y a cette loi qui a été promulguée que les GAFA vont investir, peut-être donner de l'argent aux opérateurs, qu'on n'aura pas accès à des petits sites ou à des petits services. Ceux-là aussi seront
connectés.
Mais
dans de moins bonnes conditions.
Dans de moins bonnes conditions. C'est une possibilité, effectivement. Et il est possible que ce soit plus lent, surtout par exemple pour les services de vidéo. Hein. C'est typique de ce qui pourrait arriver, effectivement, qu'un nouvel acteur veuille se lancer face aux gens qui sont déjà bien établis et que ce soit beaucoup plus compliqué pour lui, puisque effectivement, il n'aura pas forcément les sous pour payer tout ça. Quoi.
Voilà ce qu'on pouvait dire hein, c'est sur cette actualité brûlante, puisque c'est tombé hier, cette décision des US. À noter qu'en France, il n'y a pas de débat, visiblement. Même si les opérateurs français, quand on les écoute et quand on les interviewe sur le sujet, ne seraient pas contre à une espèce de...
Effectivement, il y avait Stéphane Richard, le patron de Business, qui a effectivement dit que lui, la neutralité du net, il y aura un sujet très important bientôt, c'est la 5G, et que pour la 5G, et pour certains usages de la 5G, notamment l'IoT, notamment les véhicules autonomes, il faudrait une forme de priorisation de trafic. Donc voilà.
On suivra ça de près. On enchaîne avec un sujet un petit peu plus, j'allais dire fun, c'est le nouvel iMac, qui est une
qui est pas si fun que ça,
qui est très cher en revanche. Il est pas très fun, mais il est très cher. comme toujours avec les Apple, voilà, dès qu'un nouveau produit sort, il y a toute une espèce d'effusion d'avis, etc.
Oui.
Cet iMac, donc, c'est une super machine, ultra puissante.
C'est le plus puissant des Macs jamais conçus, simplement.
Peut-être même le plus puissant des PC que jamais conçus.
Alors, je n'oserais pas le dire parce que j'en sais rien. Parce qu'il faut effectivement. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, c'est une station de travail. C'est plus un. Alors, il existe aussi des PC très puissants à base de processeurs Xeon comme celui-ci, avec non pas du disque dur classique, mais 1 Tera de SSD par exemple. Donc, pour ceux qui connaissent, ils savent que ça commence à être des spécifications sympathiques. Mm-hmm. On peut aller jusqu'à 128 Go de RAM. Enfin bon, c'est vraiment
c'est la grosse machine de compétition. compétition.
C'est une machine pour les pros, voilà, pour les pros qui ont vraiment besoin de, d'un usage très intensif de leur ordinateur, typiquement des gens qui font de l'animation, l'animation 3D, qui font, bon, pour des développeurs aussi, qui font de la vérité virtuelle, qui font de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est la machine de tous les superlatifs. Et effectivement, bah, forcément...
Et puis c'est la vitrine technologique d'Apple.
C'est aussi une vitrine technologique effectivement pour Apple. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même soigné aussi le design, hein, comme toujours. Hein. C'est une même machine plutôt... Pierre Fontaine, qui a pu le voir, disait qu'elle faisait très badass. C'est vrai qu'elle fait un peu badass et qu'elle donne envie, en fait, finalement, de jouer avec. Mais oui, c'est une machine extrêmement chère qui n'est pas réservée à tout le monde puisque ça coûte au bas mot. La version de base, on va dire, coûte 5 500 € pour débuter. Quoi,
si et ça arrive bientôt en France ?
C'est précommandable, là. Voilà, c'est commandable le jour, à
donc
partir d'aujourd'hui.
Pour le Papa Noël, si.
Si Papa vous, Noël, a priori, oui, je pense.
D'accord.
Bon, si oui, faut être Papa Noël généreux. Ce qui est intéressant, c'est que si vous, on s'est amusé à, comme d'ailleurs, on n'est pas les seuls, mais à faire la config ultime. Hein, combien vous coûte le Mac Pro si
on prend ce qu'il y a de meilleur voilà, disponible, si parce qu'en fait, on peut
changer de ton processeur.
Voilà,
Xeon,
personnaliser
par exemple,
sa machine, en fait.
Ajouter de la RAM, etc. Et on arrive à quelque chose comme plus de 16 000 € pour cet ordinateur. Donc voilà,
c'est pas. Oh, c'est le prix d'une voiture, ça va. Hein.
Ouais.
C'est,
Mais normalement, il devrait être obsolète très vite.
Parce que, étant cette voiture.
Les annonces de Apple annoncent quelque chose qui est encore plus.
Le Mac Pro. Ouais.
Oui. L'année prochaine, donc.
Ouais, effectivement.
Je ne suis pas sûr que ce soit un excellent investissement, mais ça concerne finalement assez peu de monde.
Alors oui, c'est effectivement, comme disait François, c'est aussi un petit peu une vitrine pour Apple et aussi un message pour dire, alors que Apple était une machine, les Mac étaient des machines très utilisées dans le monde professionnel de certains secteurs professionnels, notamment les milieux de la création, eh bien, ils se sont fait un petit peu, on va dire... reprendre des parts de marché par l'univers PC. Et donc, c'est aussi un message qui est adressé aux pros pour dire, voilà, on est là et on fait des machines puissantes pour vous.
Voilà pour cet iMac. Commencez à économiser hein, si vous êtes fan. On a bien compris, Rafi, c'est pas trop ton truc. Hein. Bon, voilà.
Non, mais enfin, je comprends qu'il faille. Enfin, je le trouve pertinent. Moi, mon problème, c'est plus les iMac pas pro que je trouve étrange et je me demande pourquoi ça continue à exister. Qui achète aujourd'hui un iMac quand vous êtes un particulier? Pourquoi vous achèteriez un iMac plutôt qu'un MacBook? Enfin, c'est quoi les avantages d'avoir
un plus grand écran, non? C'est ça? Plus grand écran, un design un peu plus aérien. Enfin voilà, c'est pas un laptop quoi. Je sais pas.
Oui, après c'est dedans souvent les iMacs c'est du matériel de laptop ceci dit, mais il y a un peu plus une connectique un peu plus large que sur les MacBooks qui on sait etc. Mais bon, tout ça effectivement c'est des choses qu'on peut étendre. On peut aussi connecter son MacBook à un autre écran plus grand si on a envie. Donc c'est vrai qu'on peut se demander.
Ouais.
Si c'est bien utile.
Enfin, fais attention parce qu'il a un MacBook Pro. Hein, donc enfin justement c'est ce qu'il fallait hein, que tu aies visiblement. Tu as un MacBook Pro toi.
Non, j'ai pas de MacBook Pro.
Ah bon,
moi, mon Mac, c'est un vieux MacBook Air et que j'aime beaucoup. Mais...
Alors moi, j'ai un MacBook Pro.
Voilà. Moi, j'ai un PC, les amis. Alors, commencez pas.
Hein.
On enchaîne avec, là encore, cette volonté de... Vous savez que, alors, évidemment, on parle de haut débit, de très haut débit. Quand on est dans les grandes villes, c'est facile hein, de pouvoir regarder des vidéos et de justement de se poser la question de la neutralité du net. Mais il y a des endroits en France où on ne se la pose même pas, cette question-là.
Non, hein, c'est sûr.
Parce qu'on a des débits pourris, on peut le dire. On a DSL, on n'a pas de 3G, on n'a pas de 4G. On n'a même, parfois même pas la possibilité de téléphoner. Et visiblement, il y a une prise de conscience de la part du gouvernement pour accélérer en fait la couverture du haut débit. Alors, il y avait cette histoire de bon haut débit. Après, il y a eu le très haut débit, etc. Un peu partout en France et surtout dans les zones où il n'y en a pas aujourd'hui. Visiblement, ça s'accélère un peu, Eric.
Oui, il faut dire que l'objectif est ambitieux, puisque l'objectif est de couvrir tout le monde en bon haut débit ou très haut débit, enfin bon, en tout cas, a priori, au moins du 30 mégabits d'ici 2022. Donc, comment on fait pour couvrir tout le monde, toute la France, en très haut débit d'ici 2022, ça semble compliqué avec de la fibre optique, voire même complètement impossible.
Ans, hein.
Donc, effectivement, il y a d'autres solutions qui sont imaginées et qui vont être déployées. Et la solution intéressante, et d'ailleurs, elle a été déjà déployée par certains opérateurs, dont Bouygues, c'est effectivement passer par le réseau mobile pour fournir de l'Internet fixe chez chez des gens qui n'ont pas forcément accès à la DSL.
Encore faut-il qu'ils captent le très haut débit mobile.
Oui, alors effectivement, il va avoir des offres de 4G fixe. Si on est dans un territoire couvert par la 4G, c'est ce que propose Bouygues Télécom avec sa box 4G. D'ailleurs, d'autres opérateurs devraient suivre dès 2018. Mais il y aura aussi, et ça c'est intéressant aussi, une nouvelle bande de fréquence qui va être réservée à des offres mobiles, on va dire fixes, hein, du haut débit mobile pour le fixe.
C'est-à-dire qu'on aura une antenne sur le toit qui, au lieu de capter la télé, captera en fait de l'internet.
Exactement. Et ça va arriver effectivement donc dans les années qui viennent.
Comme
pour
des
couvrir.
Ponts aériens, quoi. Des trucs comme
voilà.
Ça
vous rappelle peut-être ce qui s'est passé avec le WiMAX à une époque. Ouais. Hein, c'est pas tout à fait nouveau, mais là, non. Évidemment, c'est beaucoup plus performant. Ça permet d'avoir des débits bien supérieurs. Et donc, ça pourra permettre à des gens, à des collectivités locales qui ont envie de s'équiper et qui ont sans doute le besoin de s'équiper, de pouvoir avoir une technologie sans fil qui pourra raccorder facilement les gens qui sont un petit peu isolés. Quoi.
Rafi, ton avis là-dessus ?
Mais moi, je trouve déjà que qu'il est honteux qu'il y ait des zones en France. Enfin, ils ont avancé le chiffre de 2 millions, 3 millions de personnes qui n'avaient pas de connexion Internet en France et que c'est honteux. C'est comme s'ils n'avaient pas l'électricité aujourd'hui.
C'est un élément de confort comme l'eau chaude ou l'électricité. Quoi.
Voilà. Bon, après, il y a une question de combien ça coûte de les raccorder. Enfin, là, on peut le raccorder avec le sujet précédent de la neutralité du net. Est-ce que le gouvernement français doit créer des réseaux pour que les gens regardent Netflix? mais en même temps, c'est un droit humain de regarder Netflix, ouais, donc pourquoi pas. Comme disait Eric, évidemment, le RTIEN est la seule solution viable. On imagine mal. Enfin, de toute façon, sinon, ça aurait été fait. S'il y avait une solution filaire, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Par contre, dans les aides qui sont promises...
Cela dit, Rafi, je te coupe quelques secondes. Il y a 50 ans, il y a des gars qui avaient tiré du cuivre pour que tout le monde ait un téléphone, malgré tout.
Oui, mais ça s'appelait le gouvernement français, et ça s'appelait la Direction générale des télécoms, et c'était pas une entreprise privée.
C'était faisable à l'époque, et c'était il y a 50 ans, ou même plus longtemps. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on aurait pu faire la même chose, tirer un autre câble et rajouter de la fibre dans tous ces endroits-là, non ? Mais ça coûte trop cher, c'est ça ?
Oui, peut-être qu'à l'époque, ils avaient une autre conception de la rentabilité de l'opération.
Oui, c'est ça. Donc pour toi c'est le RDIEN en fait.
Le RDIEN si on veut être réaliste et si on veut que ce soit fait dans des délais raisonnables. Par contre, ce qui est le problème avec le RDIEN, c'est qu'il devient vite obsolète. C'est qu'aujourd'hui financer comme ils l'ont annoncé, un chèque de 150 euros par abonné pour acheter de l'équipement. L'équipement acheté aujourd'hui, dans maximum 5 ans, il sera obsolète. Est-ce que ça veut dire qu'on remet au pot de cette aide tous les 3 à 5 ans qu'est-ce qui va se passer lorsque il y aura des nouvelles normes radio qui seront plus performantes, quand on sera à la 6G, la 7G, ouais, etc. Est-ce que chaque fois il va falloir rajouter 150 euros pour que les gens s'équipent? Est-ce qu'à un moment donné, tout ça devient plus sain et normal? Ouais. Probablement pas.
Ouais. Enfin, cela dit, ils partent de zéro. Donc, même si avec 150 euros, ils se retrouvent avec, comme le disait Eric, 20 ou 30 mégabits, ça va suffire pour la plupart des usages pendant quelques années. Mais c'est vrai qu'après, bon, ça évoluera. Il y aura la 5G.
D'ailleurs, j'ajoute qu'il y a dans cette aide qui a été promise par le gouvernement, ça concerne effectivement le RTIEN, mais pas que. Il y a aussi le satellite dans la boucle, hein, parce qu'on sait que les offres satellites peuvent avoir un intérêt pour des gens qui sont très isolés. Donc ça peut aussi servir, par exemple, à l'achat d'une parabole pour s'équiper en matériel de satellite.
Le problème du satellite, c'est qu'il existe depuis un certain temps et ça n'a jamais vraiment été une solution parce qu'on a ce problème de voie de retour qui fait qu'on reçoit très très vite et que...
Problème de latence.
Un problème de latence. Donc c'est un espèce de succès d'année d'Internet et qui a jamais été satisfaisant. Après, arriver à faire 30 ou 40 mégabits sur des... avec un nombre significatif d'utilisateurs sur du RDIEN,
c'est compliqué.
Ouais.
Parce qu'on y arrive sur du mobile parfois, mais là, si on a des gens qui le soir sont à 100 à regarder des vidéos sur la même antenne, ils ne vont pas avoir ce débit, ils ne vont jamais avoir ce débit.
Il faudrait mettre Netflix sur, sur un satellite.
Ou bien il faut faire des caches Netflix locaux, ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est
ouais, ça peut être compliqué.
30-40 mégas théoriques en milieu de journée, quand on est tout seul, peut-être, mais probablement voilà. Pas.
Ce qui n'arrive jamais avec le câble, en fait.
Le câble n'arrive pas.
Voilà, c'est ça. Rafi, alors c'est un sujet que tu connais bien parce que tu as été le créateur d'un réseau qui s'appelle Ozone, qui a été développé au tout début à Paris. On se souvient, c'était un réseau de Wi-Fi qui permettait en fait à tous les Parisiens de se connecter à Internet.
Voilà, c'était un réseau communautaire dit organique, puisque les gens pouvaient se porter candidats pour mettre des antennes, et on avait couvert 65% de Paris à base d'antennes sur les toits, ce qui permettait d'avoir une couverture l'équivalent de la 3G aujourd'hui à base de Wi-Fi, et pour une fraction du coût de ce qu'il faut pour développer un réseau 3G. Et il y a eu des versions de Ozone implémenté. Il y a eu Ozone Village pour l'installer dans des villages. Il y en a eu à Rennes, à Bruxelles et en Arménie dans des zones sinistrées après le tremblement de terre, où c'est des réseaux qui se déploient assez facilement et assez rapidement, puisque c'était même dans leur nature et dans leur conception qui était que...
Ça peut être encore une solution, ou est-ce que c'est une solution qui a trop vieilli aujourd'hui et qui n'est plus d'actualité dans ce type d'équipement aujourd'hui qu'il faudrait avoir dans les campagnes?
Ça peut être une solution pour le dernier mile, mais à un moment donné, il faut quand même amener de la fibre au point de départ. Ça peut améliorer les ramifications à l'intérieur d'un territoire. Mais c'est quelque chose qui est plus facile et plus léger à mettre en œuvre que, par exemple, les solutions avec lesquelles Ozone était à l'époque concurrente, comme le WiMAX, qui était quelque chose de badass, ou que une solution, le Wi-Fi pour les riches, qui a jamais marché précisément parce qu'il y avait tous les inconvénients du Wi-Fi, mais en même temps, aucun des avantages, que le Wi-Fi, c'est léger, c'est facile, ça se déploie vite, ça peut même être jetable si la techno devient obsolète.
On verra bien. Rendez-vous en 2022 pour voir si on peut capter du très haut débit. Partout, ça va être amusant de voir si ces délais seront tenus à la fois par les collectivités, les opérateurs, parce que les opérateurs évidemment sont
sollicités,
sensibilisés et sollicités, et le gouvernement qui promet de donner de l'argent à tous ceux qui n'ont pas d'internet aujourd'hui. On termine avec, un marronnier, parce que c'est vrai qu'à chaque fin d'année, Eric,
c'est un marronnier,
on y a droit.
Oui, tout à fait. C'est la grande période des bilans.
Des bilans.
Et Google, comme tout le monde, fait le sien. Ça s'appelle Year in Search. Ils font ça tous les ans pour montrer un petit peu quels sont les sujets qui ont le plus passionné les gens qui surfent sur Google. Nous, on s'est intéressé évidemment plus particulièrement à ce qui a intéressé les gens en matière de
tech, bien sûr.
Mais il n'y a pas vraiment de surprise. Alors là, je reprends ma petite liste parce que je ne les ai pas tous en tête. Ce qu'on peut noter, c'est que je pense que vous êtes tous au courant que le numéro 1... mais d'ailleurs, ici, il y a une petite surprise quand même. Le numéro 1, selon Google, n'est pas l'iPhone 10, comme d'habitude. L'iPhone trust toujours les premières places tech. C'est l'iPhone 8 qui est, a priori, d'après Google, plus cherché.
Mais moi, l'iPhone 10. J'ai ma petite explication. Je pense qu'en fait, avant que l'iPhone 10 ne sorte, on imaginait que le prochain iPhone sortait l'iPhone 8.
C'est vrai.
Et tout au long de l'année 2017, bien avant qu'on sache que c'était l'iPhone 10, on l'appelait l'iPhone 8.
C'est vrai qu'on l'appelait l'iPhone 8.
Mais aussi parce que dans les médias, tout le monde a parlé spontanément de l'iPhone 10 qui était l'événement, et donc c'est une info qu'on avait, alors que l'iPhone 8 était beaucoup moins couvert parce que beaucoup moins sexy, et qu'il est plus probable qu'on aille chercher l'info sur l'iPhone 8 alors que celle de l'iPhone 10, on l'a plus directement.
Et voilà, c'est ça.
C'est aussi possible. Mais en tout cas, voilà, les deux nouveaux iPhones de l'année sont en tête. On trouve ensuite effectivement un produit qui a beaucoup animé l'année, c'est la Switch.
Et tes soirées d'ailleurs aussi.
Et mes soirées, et les soirées de pas mal de gens dans cette rédaction. C'est la Switch qui est donc arrive en troisième position, et c'est un peu normal, c'était un peu l'événement de l'année en matière de
hardware. Et c'est vraiment la bombe de Nintendo de l'année 2017. Personne n'attendait Nintendo sur ce truc-là.
Et je me rappelle avoir dit ici que j'y croyais pas du tout. Ça a fait un énorme carton.
Et quand tu te couches à 3h du mat avec Zelda Super Mario.
Et d'ailleurs, ils viennent d'annoncer qu'ils en ont vendu donc 10 millions. Là, ils sont sur des chiffres qui rappellent ceux de la Wii première du nom, qui avait fait un absolu carton.
C'est plutôt une bonne nouvelle parce que Nintendo avait besoin de renouer avec le succès parce que c'est vrai que la Wii U, la précédente, n'avait pas été...
Ça, c'est clair. J'ai passé vite. Bon, après, on trouve le Galaxy S8, on trouve l'Xbox One X. Et ce qui est plus surprenant, c'est le numéro 6. Hein. Il nous a beaucoup amusé, nous aussi, au début de l'année. C'est le Nokia 3310. Encore un smartphone, un dumb phone cette fois, mais qui fait un retour incroyable dans les recherches tech, puisque qui aurait pu croire que le 3310 de Nokia soit en tête des recherches Google de l'année. Et voilà, donc après je vais pas tous les faire, parce que après en fait c'est essentiellement des téléphones, hein, dont on va dire en tech personnel selon Google. Ce qui est surprenant, c'est le Razer Phone qu'on vient de tester à la rédaction de ZeroNet. D'ailleurs, le test est en ligne, qui est un téléphone pour gamer conçu par la firme
personne
Razer.
Personne ne connaît, mais malgré tout, il a été.
Bah, en fait, Razer est très connu par les gamers. Donc, je pense que effectivement, savoir qu'il faisait un téléphone, attirer un petit peu la curiosité des internautes.
Rafi, toi, tu as une autre lecture de ce classement avec.
Oui, moi, je me suis pas intéressé au côté tech, enfin entre autres choses. J'ai surtout comparé le top des search France par rapport au top des search globaux.
Oui, parce que Google en fait localise en fait ces searches, hein, pour que ce soit cohérent et que culturellement on comprenne ce qui se passe.
Et donc le truc le plus recherché sur Google de manière globale, c'est l'ouragan Irma. En France, c'est Johnny Hallyday. L'ouragan Irma arrive en sixième position dans les recherches françaises. Et donc, j'étais étonné de voir que Johnny Hallyday, qui s'est fait enterrer à Saint-Barth, avait écrasé l'ouragan Irma, qui avait aussi détruit une partie de Saint-Barth. Donc, par ailleurs, Johnny Hallyday est nulle part dans les classements globaux. Il n'existe pas dans le truc.
Mais voilà, il faisait partie de notre culture française. C'est pour ça aussi que. Voilà,
autre curiosité, parmi les top search globaux, il y a How to buy bitcoins. et il n'y a rien sur les bitcoins dans les search français. Donc l'opportunité des bitcoins n'est pas encore quelque chose de très dans l'esprit des Français. Voilà. La recette de cuisine la plus recherchée en anglais est la poitrine de poulet, alors qu'en France c'est la tartiflette.
C'est un peu plus lourd quand même que la poitrine de poulet.
Voilà. Donc c'est le genre de choses qu'on apprend et qui sont passionnantes.
Oui, c'est toujours
2017,
amusant.
L'année de la tartiflette.
Ça rime en plus. C'est formidable. Mais il faut arrêter parce que ça nous donne faim. Ouais,
mais en tout cas, oui, ce qui est marrant, ce que disait Rafi est tout à fait vrai. Là, j'ai parlé du top global sur la tech. Mais en France, il y a quelques particularismes aussi. Et celui que j'ai apprécié, que j'ai trouvé intéressant quand même, c'est Scratch. Scratch, c'est un outil de programmation, on va dire, pour les jeunes, pour ceux qui veulent débuter la programmation. Et qui arrive quand même dans le top 10 des recherches tech Google. Et ça, c'est plutôt bien,
c'est
on va dire.
Positif, ça veut dire qu'il y a beaucoup de.
C'est intéressant de voir
beaucoup
ça.
De gens qui s'intéressent.
Et l'autre chose qui arrive, et là on se dit, est-ce que Google n'a pas un petit peu manipulé son algorithme? Je ne sais pas, mais bon, ils disent évidemment que non, que tout ça est pondéré. C'est Google Home. Google Home qui est aussi en France parmi les recherches les plus tapées de l'année, selon Google. Voilà.
Voilà, Google Home qui a été analysé dans les précédents De quoi je me mêle par Rafi Aladji, on en avait parlé, et on y reviendra bien sûr. Merci beaucoup Rafi, c'était un vrai plaisir.
Merci de m'avoir invité.
Termine bien cette année. Et puis Eric, on se retrouve la semaine prochaine.
Ouais.
Voilà, avant de s'accorder quelques petits jours de vacances bien mérités les amis. Vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle, c'est avec Victor Jakimovic déguisé en Papa Noël. Eh oui, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
Et oui, vous êtes bien dans De quoi je me mêle, vous le savez, toute l'actualité high-tech chaque vendredi. La version audio qui vous attend sur rmc.fr, la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube, bien sûr, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être là. Et en ce 15 décembre, les amis, il vient d'arriver avec son traîneau à hydrogène liquide. Il vient de se poser sur la terrasse de l'immeuble de Next Radio TV où il y a 01net et RMC. C'est le Papa Noël, mesdames, messieurs, il est là, regardez-le.
Ouais, bonjour à tous.
Oh, oh.
Ouais, je suis venu avec quelques produits et quelques idées, éventuellement pour ceux qui en manqueraient.
Et oui, parce que le Père Noël s'appelle Victor, en fait. Vous ne le saviez pas, mais maintenant, vous êtes au courant. Victor, la sélection de Noël donc de Victor Jakimovic dans De quoi je me mêle. Et on va commencer par ce drone qui clignote. C'est un drone d'intérieur, très sympa pour se faire des petits selfies.
Ouais, il n'est pas que d'intérieur, mais il a été particulièrement conçu pour pouvoir être utilisé en intérieur. Pour ça, il dispose par software d'un mécanisme anti-collision. Il est entièrement caréné, ce qui fait en sorte que quand il se cogne sur un mur, il va pas endommager les hélices. Les hélices sont tripales, histoire de diminuer un peu le niveau de bruit général.
D'accord, donc on peut se parler dans la pièce.
Ouais, il D'accord. est conçu pour décoller automatiquement ou manuellement pour les plus spécialistes. Enfin, c'est un drone facilitateur.
D'accord.
Il dispose bien entendu de la fonction follow quelqu'un ou quelque chose.
Autrement, ah, ça, c'est dit, pratique.
Autrement dit, sur l'appli, on lui dit tu suis celui-là en touchant sur l'écran. Eh ben, il va automatiquement aller suivre la personne en question. Bon, voilà, c'est un joli petit drone relié au téléphone, au smartphone en 720p pour avoir un contrôle réel direct D'accord. de la situation. Par contre, l'enregistrement s'effectue sur micro SD en 1080 et là, on fait ce qu'on veut derrière après. Mais il marche
côté
aussi
photo,
à l'extérieur.
On a quelle résolution photo ?
Ah ben, on est en photo, je sais plus, une douzaine de mégapixels dans
D'accord.
mon souvenir.
Bah, parfait.
Ce qui est tout à fait convenable.
C'est vraiment cool ces drones.
12 mégapixels avec stabilisateur.
En plus.
Bien entendu.
Voilà, ça c'est la première idée cadeau. Bon, il faut quand même débourser 250 €. Mais que voulez-vous, pour faire des petits selfies sympas, il faut quand même mettre le prix. On poursuit toujours dans la photo. Tout à l'heure, on va parler de son, on va parler aussi d'objets connectés dans cette sélection des cadeaux de Victor. Et un petit stabilisateur pour smartphone. Ça, c'est vraiment...
Un gimbal.
À mon avis, c'est l'un des cadeaux qui
un
va cartonner
gimbal.
Pour
les gimbals,
Noël.
Jusqu'à présent, c'était relativement cher. Moyennant quoi, quand je ne sais plus qui de la bande, Christophe, je crois, revenait de Hong Kong, il était heureux de dire « j'en ai acheté un à 110 €». Eh ben celui-là, il n'y a pas besoin d'aller en Chine ou à Hong Kong pour se le payer. Il vaut 150 €. Il a toutes les fonctions qu'on attend d'un gimbal habituel, de stabilisation, trois axes, un logiciel bien foutu qui permet d'avoir la fonction détection de personnes et suivi de personnes. C'est Feiyu qui fait ça. Feiyu est un des gros faiseurs dans le domaine, Feiyu Tech.
D'accord. Ils sont spécialisés dans ce
Ils
dans,
sont
dans
spécialisés. Il y a une grosse poignée confortable
ouais,
à tenir.
Ça se voit, hein, on
avec
bien
une
en main.
Batterie qui permet 5 heures d'autonomie. On a toutes les commandes de zoom extérieur, de Bluetooth, de bon, on fait absolument ce qu'on veut. Et c'est maintenant devenu relativement bon marché. 150 €, j'irais jusqu'à dire. Seulement.
Ouais, ouais.
Et en plus, quand on le pose...
Il tient debout tout seul.
Il tient debout tout seul. Ouais.
Hein. C'est vraiment... Moi, je trouve ce produit assez fascinant, quand même.
Assez extraordinaire.
Toute la technologie qu'il y a là-dedans, hein, il y a des capteurs partout.
Il y a de l'asservissement, enfin, il y a des moteurs, il y a du boulot. Et ça donne un côté professionnel aux images qui change absolument tout.
Parfait. On poursuit avec, toujours dans la photo maintenant, le Pixter Pro.
Oui, Pixter. Alors, Pixter, on les connaît depuis longtemps. Repasse-moi ça que
oui.
je récupère.
T'as besoin de ton téléphone.
Voilà. On les connaît depuis
Oula.
Longtemps.
Il n'est pas content, lui. Mais vas-y, continue pendant ce temps-là.
Il faut appuyer sur le bouton qui est devant.
Oui, j'appuie sur le bouton.
Jusqu'à présent, Pixter, on les connaît depuis longtemps. C'est des gens qui fabriquent des super objectifs comme qualité.
Ça fait vibreur aussi.
C'est en verre, c'est bien fait. Il faut appuyer un certain temps. Voilà, ouais. ça y est, je crois que c'est fini.
Non, il continue. Mais vas-y, vas-y. Donc, ça sert à quoi ton truc ?
C'est en verre, c'est bien fait. C'était des beaux objectifs. Le problème, c'est que ça tenait sur les appareils photo avec une pince et que l'objectif et la photo sont bonnes quand on les place de façon extrêmement précise. Le problème, c'est que baf,
oui.
on se cogne parce que ça déborde et du coup, on n'est plus du tout dans le champ. Donc, Pixter a eu la bonne idée, enfin, je dirais, de sortir une coque.
Ah oui, d'accord, qui intègre en fait
qui permet de visser l'objectif que l'on veut. Alors, ils ont toute une gamme
d'accord.
d'objectifs, hein, et là, il n'y a pas de problème. Là, on sera obligatoirement bien positionné. Là, par exemple, j'ai monté le fisheye. Celui-ci est l'objectif macro.
D'accord.
Celui-ci est le télé, celui-là est le grand angle. Donc on va pouvoir, sans trop de déformation en qualité d'image, il y a un peu de perte, soyons clairs.
Bien
sûr. Il y a un peu, ce qu'on appelle un peu de vignettage.
D'accord.
Dans les angles.
On perd en luminosité aussi, j'imagine.
Un petit peu, mais bon. Une fête de famille, Noël,
c'est clair.
La table, elle est trop grande, il y a trop de monde. Hein. Comment je fais rentrer tout ça dans mon truc ? Eh bien, Pixter avec sa coque. Alors, un objectif Pixter, ça vaut
50 euros.
La coque vaut 20 euros et elle vient de sortir désormais pour les principaux modèles iPhone et Galaxy. Et ils m'ont dit qu'ils allaient sortir tout le reste.
D'accord.
C'est un bon truc et les résultats sont réellement assez étonnants pour un truc qui n'est qu'un complément optique quand même.
Bonne idée cadeau là encore pour les fêtes. Bon, alors évidemment, on est à 160 euros pour tout le pack, mais 50 euros pour un seul, ça vaut le coup quand même si on choisit bien.
Et pour les amateurs photo, il y a un truc qui est un polarisant, un filtre polarisant. Alors là, ça permet d'améliorer, de déboucher certaines photos.
D'accord.
C'est vachement intéressant.
On enchaîne avec le Canvas Pro Fill.
Alors, ce casque...
Là, on passe à l'audio, donc. Hein,
là,
vous l'avez
on
compris.
Passe à un peu d'audio, oui, il en faut pour tous les goûts. Ce casque est méconnu.
Oui, c'est vrai que la marque c'est la marque Canvas.
Canvas,
c'est ça,
avec deux I, me demandez pas pourquoi. Ils tiennent tellement oui qu'ils l'ont appelé Fill, F-2-I-L. Bon, c'est comme ça. C'est
ça
chinois.
Ah, c'est chinois.
C'est
d'accord.
Chinois. Okay. C'est d'une qualité sonore absolument remarquable. C'est tout à fait comparable à, pour ne pas le nommer, son principal concurrent, à savoir le QC35 de Bose.
Ah, carrément.
Ah oui,
il joue dans la même cour que le QC35 de Bose.
Il est un peu moins confortable parce que c'est un supra-auriculaire. Hein. Il est un petit peu moins confortable, mais du côté de la qualité sonore, il joue dans cette cour-là. Il a une autre particularité qui le rend intéressante. Il bénéficie d'ailleurs, soit dit en passant, du label iRes, qui n'est pas accordé à n'importe qui et à n'importe quoi.
D'accord.
Loin s'en faut.
Bon, alors il est Bluetooth, c'est vrai qu'en Bluetooth, le iRes, c'est un peu compliqué.
C'est vrai, mais il est Bluetooth.
C'est vrai, François, vous avez raison, mais pas grave, il est iRes quand même. Et
il
commencez
iRes
pas à m'emmerder avec vos questions.
Il est Bluetooth, oui, mais vous pouvez l'utiliser en filaire.
En filaire, bien sûr. Là, bien sûr.
Donc il est Bluetooth 4.0 APTX, il est capable de lire dans la mémoire qu'il a, parce qu'il a une mémoire intégrée de 4 gigas.
Ah, donc on peut stocker de la musique.
De stocker de la musique. Il est capable de lire du FLAC, de lire du WAV.
Qui est un fichier, en fait, vraiment meilleur que le MP3.
Non compressé du tout.
Oui.
Ce qui est quand même autre chose que le MP3 ou même l'AAC.
En fait, c'est compressé, mais destructif. Non destructif.
Non destructif,
FLAC,
absolument.
Mais c'est compressé quand même.
Mais c'est une compression, on divise par deux. On racontera comment ça se fait un autre jour. Bon, excellent casque. Il y a une appli avec un equalizer où j'aurais aimé trouver autre chose que 3 positions, qui me fasse vite un 5 positions, histoire d'affiner
d'accord.
un peu. Bon, il y a
et à l'oreille, donc c'est bon.
On peut modifier les ambiances. Vous pouvez écouter dans le studio ou bien dans un hall de gare, si vous
d'accord.
en avez envie, vous modifiez l'ambiance. C'est de la 3D. Rapport qualité-prix exceptionnel. À l'oreille, c'est très, 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 très bon.
Ah, ben, très bien.
Moi, je sais que j'ai trouvé ça fabuleux. Pépé aussi, d'ailleurs, on en parlait il n'y a pas longtemps.
Eh ben, tant mieux. On enchaîne avec JBL et le Soundgear. Alors ça, c'est un produit étonnant, Victor. Regardez ce qu'a Victor autour du cou.
Non, pas encore. Je
voilà,
le mets autour du cou.
Avec,
voilà.
Ça vous va très bien avec votre bonnet, tiens.
Oui, ça va bien avec le bonnet.
C'est pratique.
Ton sur ton.
C'est sympa.
Bon,
alors qu'est-ce que c'est que ce tour de cou high-tech ?
Eh ben, c'est un tour de cou avec deux haut-parleurs de chaque côté. Ces deux haut-parleurs...
Donc
ça
là,
va...
c'est deux haut-parleurs ?
Oui.
OK.
Et je vais pouvoir écouter de la musique sans trop déranger les gens autour, entendons-nous bien, faut pas mettre ça dans le métro. Mais il y a des moments où la solution du multi-room, ça marche, mais ça fait pas le boulot, c'est pas pratique, c'est pas bon. Il y a des donc si on doit avoir les oreilles dégagées pour entendre,
pour ne pas être isolé totalement de ce qui se passe,
pour ne pas être isolé totalement, se déplacer. Ne pas perturber quelqu'un qui écoute autre chose, comme on écoute de tout près, puisque les haut-parleurs sont tout près des oreilles, on les met jamais très fort. Donc, même si c'est fort pour soi, c'est faible pour les autres. Voilà, JBL a sorti ce truc étonnant. Alors, ce truc étonnant est livré avec cet adaptateur-là. Petit adaptateur dans lequel on peut rentrer en optique, hein, en SPDIF optique, en Toslink ou en mini jack, et qui permet de balancer sur ce casque, enfin sur ce, oui, ce pseudo casque,
ce tour de cou sonore,
en Bluetooth, le son de votre télé.
Ça, c'est pas mal.
Lorsqu'on a des gens qui ont des niveaux d'écoute différents, des choses comme ça, c'est une.
Mais quelle est la... Et alors, la qualité sonore, elle est bonne là quand on est comme ça?
Ah ben, c'est moins bon qu'un vrai casque.
D'accord.
Il y a chez JBL en particulier.
Mais on ne peut pas écouter de la musique dans des, avec... Enfin...
Mais si vous avez un vrai casque, vous n'entendez
d'accord,
pas ce qui se passe. Le livreur qui sonne, si vous n'avez pas monté un interphone vidéo, machin, bon, etc. Donc, ça offre de l'intérêt dans un certain nombre d'utilisations. Très honnêtement, je n'ai pas encore tout découvert sur le moment où
d'accord.
ça s'utilise, mais... Quand on l'utilise, ça marche bien.
On enchaîne avec Prism. Alors là, on part en France, les amis, parce que le petit boîtier que Victor a, eh bien, c'est une innovation française.
Prism est une interface, c'est une innovation française. Prism est fait pour les gens qui, en rentrant chez eux, n'ont pas le courage de se mettre de la musique ou de se décider à choisir parmi leurs musiques. Donc, Prism est un dispositif qui est une interface où on se contente de l'allumer et automatiquement, il ira chercher des musiques qui sont les musiques que vous appréciez, car il analyse le genre de musique que vous écoutez et à partir de là, il va vous proposer des trucs qui vont bien, mais il vous fera faire des découvertes, vous le connectez. Alors, vous le connectez à la base de données Prism, parce qu'il est clair que Prism fonctionne avec sa propre base de données. Pour le moment, dans cette base de données musicale, il y a d'abord et surtout les grands, les majors. Il n'y a pas encore beaucoup d'indépendants ou de trucs, je dirais, un peu de recherche. Mais la base va s'accroître. Alors, l'interface est extrêmement simple avec des commandes de part et d'autre
d'accord.
pour définir ce qu'on veut. Ça se relie avec un mini jack ou une sortie optique à votre amplificateur et en route pour écouter de la musique en rentrant et être surpris par quelque chose qui vous plaît. C'est pas mal du tout. Ça vaut 149 euros ce tétraèdre, car c'est un tétraèdre.
Bon.
L'abonnement est gratuit la première d'accord. année. L'année suivante, c'est 40 euros l'abonnement pour un an. Voilà. Et c'est une solution intéressante.
À suivre donc. Et puis, c'est français, on le disait tout à l'heure, hein, c'est plutôt cool. On enchaîne avec Bixi.
Alors,
Bixi, c'est un tout petit appareil que vous avez entre les mains.
On était dans une interface, eh bien, on retrouve un système d'interface. L'un faisait de la musique, l'autre va servir éventuellement à piloter vos morceaux, si vous écoutez de la musique,
ouais.
mais il peut faire autre chose, gestuellement. Mettre la main plus ou moins haut va modifier le niveau du son. Un mouvement dans lequel on chasse latéralement va dire passe au morceau suivant
d'accord.
ou précédent.
C'est une petite
etc.
télécommande tactile.
C'est une télécommande gestuelle, pas
d'accord.
tactile.
Ah d'accord, il ne faut pas toucher.
Il n'y a pas besoin de toucher. C'est ça qui peut être intéressant
ah ouais,
dans un certain cas.
Ça fait un
vous
peu
êtes
science-fiction,
ça. Vous êtes dans la cuisine. Vous avez les mains pleines de gras parce que vous êtes en train d'énerver le foie gras. Hein bon,
ah, Victor, on voit que... Hein.
Eh oui, bon. Donc, la solution pour dire « je change-moi ça, ça m'embête », eh ben, c'est simple, un petit geste devant, mais ça peut servir à plein d'autres trucs. Ça a plein d'usages professionnels, entre autres, aussi, parce que là où on ne peut pas mettre les doigts pour des questions d'hygiène ou autre, ça permet de commander... Pas seulement la musique, hein, mais aussi la voiture, au bureau, plein de choses. Bixi, c'est français
d'accord.
aussi. C'est une interface qui est tout à fait intéressante.
Bixi, donc. Et on enchaîne avec des trucs qui terminent en i, parce
oui.
que c'est plus cool.
Oui.
C'est Itzy.
Itzy. Alors, Itzy, on rentre dans la domotique. Et ce que je vous présente là est un truc qui reste à brancher, il n'y a pas de problème, il y a les deux fois deux fils, à brancher sur une chaudière pour faire un thermostat. Alors, vous me direz, des thermostats, il y en a déjà plein.
Netatmo, Nest.
Ils en ont tous.
Il y en a plein. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Excusez-moi, je ne les cite pas. J'oublie de les citer, mais il y en a beaucoup d'autres.
Oui. Mais sauf qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas par rapport à celui-là, c'est qu'ils valent tous plus de 100 euros.
C'est vrai.
Celui-là vaut 99 euros.
Ah ouais.
Ce qui est quand même une grande première.
Alors attendez.
Il est livré.
Comment ça se branche ça, Victor? Parce
Alors,
que moi le
ça bon. Ça se branche à la chaudière pour le courant D'accord. d'une part et d'autre part pour le réglage de température.
Ok.
Ça que vous avez branché à votre chaudière est connecté à cette prise de courant en fréquence radio, pas en Wi-Fi, parce que le Wi-Fi n'a pas une portée suffisante. Si la chaudière est dans la cave ou dans le garage, bon, il faut un peu plus de portée. Donc, est connecté à cette prise de courant qui, du coup, est une prise de courant télécommandée et qui est elle-même connectée
à une belle décoration.
Qui elle-même est connectée à votre smartphone. Et sur le smartphone, bah, vous avez toute la possibilité de vérifier la température, parce que cette prise détecte D'accord. la température, et de régler la température comme vous le voulez. Il peut y avoir plusieurs téléphones connectés, donc la famille, chacun peut régler la température, mais il n'y a qu'une chaudière, donc ça, il va jouer un peu sur les autres. Et il peut y avoir plusieurs Bixi s'il y a plusieurs systèmes de chauffage. Itzy.
Itzy, oui, parce que si on... Vous voyez, ça finit par i, on confond. Itzy,
ouais,
ben voilà.
Un peu. Et c'est... Alors, évidemment, par rapport à d'autres, les autres ont un objet qui permet de régler la température, un bouton, etc. Ouais, là, il n'y en a pas.
Tout se fait.
Ce qui explique peut-être un peu
la différence de prix. Tout se fait
made in
France.
Distance. Alors, ce n'est pas made in France. C'est inventé par un Français qui vit à Shenzhen, je crois, ou à Shanghai, je ne sais plus, et qui donc connaît très, très bien le réseau français.
Oui, et la culture des chaudières françaises.
Voilà. C'est nouveau.
La culture des chaudières françaises.
C'est absolument. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est... Moins de 100 euros.
Parfait.
C'est bon.
On enchaîne avec Luco. Alors, ça, c'est un capteur.
Luco, c'est français. Sur leur notice, ils mettent fièrement fabriqué en France. C'est totalement fabriqué en France.
D'accord.
On est dans la domotique encore. Il s'agit de mesurer avec ça votre consommation électrique. Alors, là aussi...
Mais par exemple, quelle consommation électrique? N'importe quoi
Vous le mettez sur le compteur. Donc, vous aurez votre consommation électrique
On branche
globale.
Ça sur le compteur électrique qui est à l'entrée de la maison.
Voilà, vous branchez D'accord. ça. Il existe deux versions. Une version pour compteur optique ou compteur mécanique. Donc, aucun problème.
Il
faut choisir le bon. Ça marche avec tous. Ça va mesurer la consommation et comme c'est intelligent, c'est capable de détecter le type de signature électrique des produits qu'il consomme. Un frigo n'a pas la même signature qu'un moteur électrique,
qu'une lampe.
Et donc petit à petit, alors là c'est pas instantané, hein, mais petit à petit,
il va détecter les modes de consommation et vous dire ben voilà, tiens, ça c'est la box, ça c'est le frigo, ça c'est le four.
Alors,
c'est génial.
Oui, puis, très honnêtement, c'est pas très nouveau, François.
Hein, oui.
Simplement, là aussi, il y a un vrai break. Jusqu'à présent, ce genre de choses valait de l'ordre de 200 euros. Là, ils sont passés à 59 euros.
C'est bien, d'accord.
Hein. Mais donc, la domotique entre ça, ici, etc., devient quelque chose de raisonnable.
Et ça se connecte à quoi après?
Alors,
un smartphone,
ça,
à la box?
C'est connecté à ceci qui est un bridge avec une clé USB. Hein. Ce bridge va être connecté à votre smartphone. À votre box, vous pouvez d'ailleurs le brancher directement sur la box, sur le port USB,
D'accord.
si vous voulez.
Donc,
si
ils vont discuter entre eux et envoyer toutes ces informations.
Et envoyer toutes les infos sur votre smartphone. Et il y a une appli qui vous raconte ce que vous faites.
Parfait.
Ce qui est bien.
On enchaîne avec le Cosmo Connected. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Regardez, c'est bizarre. On dirait peut-être même un petit... Non, c'est pas ça comme
non,
ça.
Non, c'est dans le dos. Et pas devant.
Dans le dos ?
Oui, non. Ça, c'est un truc qui se fixe sur un casque de moto.
Ah, d'accord.
Derrière le casque de moto, on colle ceci qui est un petit support.
On vous voit là, Victor, d'ailleurs.
Magnétique.
Vous étiez
oui,
à fond
absolument.
Sur l'autoroute.
J'étais en train de le tester.
À fond les ballons.
Voilà. On colle ça sur le casque derrière. Ici, le détecteur va... ce Cosmo va venir se connecter grâce au support magnétique et il comporte un accéléromètre qui va détecter ce qui se passe. Vous freinez, ben il va s'allumer.
D'accord.
Vous pouvez choisir éventuellement dans l'application, car il y a une application bien sûr, d'avoir de l'éclairage permanent, s'il y a du brouillard ou autre, c'est pas mal. Voir un flash clignotant, c'est pas mal non plus. Bon, c'est une application de sécurité.
Quand on est motard, on sait qu'on n'a jamais assez de sécurité, hein, donc c'est cool.
Absolument. L'intérêt, c'est que vous êtes là avec un éclairage qui est à bonne hauteur.
Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis ça se voit bien. Hein. Là, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit bien que c'est. Enfin voilà, on visualise bien.
Voilà. Et particularité, si vous avez pris un abo,
un abonnement,
absolument. Vous êtes relié à un système qui vous géolocalise en cas d'accident. En cas d'accident, le système se sépare pour éviter le coup du lapin.
D'accord. Hein, ouais, bien sûr. Et donc là, à ce moment-là, il va détecter qu'il y a un choc.
Il va détecter qu'il y a un choc, prévenir l'assurance que vous avez prise
d'accord.
par l'abonnement
wow.
et intervenir dans les plus brefs délais.
Pas mal.
C'est une sécurité.
9 euros par mois, hein, l'abonnement, hein,
ouais,
c'est ça.
L'école de Monray, le grand
oui,
champion
oui, oui.
motard, a
mmh.
décidé de s'équiper de ça.
Pas
parce
mal.
Que, bah oui, c'est une sécurité tout à fait importante.
On enchaîne avec la Nokia Steel HR, la montre connectée. Alors, vous savez que WeSings a été racheté par Nokia il y a quelques mois de cela. Et petit à petit, donc Nokia intègre l'ingénierie WeSings.
Ce n'est pas tellement petit à petit. Ils ont sorti du jour au lendemain tous les produits WeSings sous le nom de Nokia.
Je parlais technologiquement. Mais...
Pardon, moi je parlais de produits. Ils ont sorti tous les produits sous le nom de Nokia, sauf un, la Steel HR, qui était le dernier produit WeSings. Pourquoi ? Bah parce qu'en réalité, soyons honnêtes, la Steel HR, elle avait une petite caractéristique. Elle était, alors qu'elle était vendue pour être étanche, elle avait un peu de condensation quand on prenait une douche.
Ce qui n'est pas terrible quand...
Quand on prenait une douche ou qu'on allait se baigner. Il y avait de la condensation. Bon.
Est-ce que la Steel HR est chère ?
Et la Steel HR, elle vaut... Suivant la taille, parce qu'elle existe en deux tailles, 36 et 40 mm, elle vaut 190 ou 200 euros, suivant la taille. Et par contre, sous le nom de Nokia, où elle vient de sortir, elle est complètement étanche.
Donc ils ont revu toute
Je
la fabrication.
Ils ont revu la fabrication. Ils ont amélioré la protection du cardio-fréquence-mètre,
ouais.
qui est toujours aussi précis. Il est remarquablement précis. Ils ont fait une montre très, très élégante.
Ouais, qui ressemble à une vraie montre.
Étanche,
en fait.
Qui ressemble à une vraie montre. Elle ressemble tellement à une vraie montre... que moi, le bracelet noir...
Dans le micro, Victor.
Le bracelet noir qui était livré avec, très honnêtement, j'ai trouvé que ça la desservait complètement. Je suis donc allé voir l'atelier du bracelet parisien et j'ai offert à ma montre, parce que j'ai adopté cette montre, j'ai offert à ma montre un très beau bracelet en alligator. Alors, l'atelier
on
du bracelet
en
alligator.
En alligator, que vous avez même vous-même tué d'ailleurs.
Absolument.
Hein, avec les dents.
Alors, l'atelier du bracelet parisien, c'est un lieu extraordinaire où il faut aller, rien que pour le plaisir de vivre. Il y a des cuirs de toute nature,
oui.
du cuir de queue de castor, de panse de bœuf,
oh
de
Dieu.
Saumon.
Brigitte Bardot, si tu nous écoutes, tu dois
mais
être
non,
un peu énervée.
Mais non, c'est toutes des bêtes qui ont été élevées pour ça, tuées aussi, il faut le dire.
Oui,
bon,
enfin bon,
mais
Brigitte s'en fout que ce soit de l'élevage ou du sauvage, hein, à partir du moment où on tue les bêtes.
Peut-être, oui.
Oui, ça, je vous le dis.
Et donc, ils ont des choses, c'est un lieu de promenade, l'atelier du
Parfait.
Passé. C'est Place du Marché Saint-Honoré
ben voilà.
à Paris. C'est un lieu fabuleux. Moi, j'adore m'y balader.
Victor, on enchaîne avec l'Ocean Clock
ouais,
qui est là. Alors bon, ça, c'est évidemment, ça va être un peu compliqué de l'accrocher au poignet, hein, vous le remarquez.
Ouais.
Ou alors, il faut avoir le poignet de Hulk.
C'est l'objet
encore,
le moins high-tech de tout ce que j'ai emmené.
Alors, qu'est-ce que c'est que... Attends, regardez, je vais la prendre pour qu'on l'ait bien en face. Ah, ben voilà, Thomas est formidable. Si vous êtes avec nous en vidéo, on la voit bien en
voilà.
face.
Voilà, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une montre, enfin, c'est une pendule plus exactement, qui indique la marée. Quand on habite au bord de la mer, ce qui est mon cas, et j'ai plein de copains qui sont dans ce cas-là, eh ben, le truc qui rythme la vie, c'est la marée. Et donc, à quelle heure elle est haute, la marée ? Bon, c'est...
D'accord.
Ou à quelle heure elle est basse, suivant.
Bah moi, je suis de Méditerranée, donc autant vous dire que la marée,
oui, la marée
ça me fait marrer.
30 centimètres, bon, et
ouais,
encore,
même pas,
et encore.
Et donc là, vous savez, en gros, quand on va voir la marée ?
On a une pendule qui fait pas le
marée
tour.
Marée haute ou marée basse ?
Qui fait pas le tour en 12 heures, mais le tour en...
Oui, en temps marée.
En temps marée.
D'accord.
Et bon, j'ai trouvé que c'était un fort joli cadeau.
Oui,
c'est fait
rigolo.
Par un jeune... C'est fait très artisanalement.
Mais ça marche comment, technologiquement ?
Par un jeune couple. Oh, ben, c'est une bête horloge, un bête mécanisme monté dans une belle boîte.
D'accord.
Par un jeune couple de gens qui sont installés à Osgore, qui font ça avec leurs petites mains.
C'est mignon.
C'est plutôt
beau. Non, mais en plus, ouais,
plutôt beau,
c'est plutôt déco,
un bel objet.
Ce truc-là.
Ils travaillent le bois, ils travaillent le liège. Ça peut être un très beau cadeau.
Victor, on va terminer ce Noël marathon avec l'Access Go devise. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ?
Access and Go, c'est une boutique qui est à côté de la,
ah oui,
d'ailleurs, du marché des faubourgs Saint-Honoré, dont je parlais tout à l'heure. Saint-Honoré.
Vous faites vos courses dans des endroits chics, hein, quand même.
Le cuir, je ne connais pas beaucoup d'endroits comme les ateliers du bracelet parisien. Je n'en connais pas d'autres à Paris. Bon, donc, toujours est-il que je suis allé dans une boutique qui s'appelle Access and Go, dont la devise est l'essentiel, c'est l'accessoire. Et l'accessoire, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je veux dire que les produits, tout le monde en parle à la rédaction. Je suis l'un des seuls à parler bidouille. Et chez cette boutique, il y a plein de bidouilles et de belles bidouilles. Alors, j'y ai trouvé quand même. J'y ai trouvé un petit power bank.
Oula, ça c'est révolutionnaire, Victor,
c'est
le power bank.
Vous avez
raison.
Et il fait quelque chose de très particulier que vous allez voir. Il se reboucle sur lui-même. Vous allez me dire à quoi ça sert ?
Il s'auto-recharge ?
Non, non.
La première powerbank qui s'auto-recharge quand elle est vide, mesdames, messieurs.
Quand vous l'avez débouclé, il a changé de prise.
Oh, d'accord. Donc, en fait, il est compatible.
Il est compatible. Il est livré, donc.
Micro-USB et Lightning.
Micro-USB et USB-C, qui est livré à part.
D'accord.
Malheureusement, il n'y a pas la place de mettre
les deux. Oh, c'est dommage.
Hein, et...
Lightning.
Alors, à part ça, c'est un power bank qui est fort joli.
D'accord.
Qui fait 6000 milli quand même,
oui.
Ce qui est bien pour une
sa
aussi
capacité,
petite taille.
Sa capacité, c'est pas mal.
Qui n'a pas d'interrupteur. Il détecte automatiquement.
D'accord.
Bon, pendant que j'étais chez Access and Go, j'ai trouvé d'autres trucs qui m'ont intéressé. Du genre.
Ça aussi révolutionnaire, une coque pour smartphone.
Ouais, une coque pour smartphone. Une coque, alors qui pèse rien.
C'est vrai, je l'ai
alors
tout pesé.
Alors qui est d'une robustesse absolument délirante, pour une raison simple, c'est une coque en
Kevlar.
Kevlar.
Ah oui.
Hein, c'est hyper costaud. Quand j'y étais, il y avait deux flics qui venaient pour Millipol.
Et qui voulaient ça.
Le salon de la police,
d'accord,
etc. Qui voulait du Kevlar, parce qu'eux, ils savaient ce que c'est, ils portent ça. Bon. Non,
mais est-ce que ça veut dire que ça protège mieux le smartphone ?
Ah oui, oui, oui.
D'accord.
C'est autrement plus robuste à la déformation, au choc que tout ce qu'on nous propose. Ça ne coûte pas le même prix non plus.
Ça coûte combien ce truc-là ?
On est à, je ne sais plus, 60-70 euros.
Ce petit machin-là ?
Un petit machin-là.
Ah ouais, le Kevlar, c'est pas donné. Hein.
Non, le Kevlar, c'est pas donné.
Victor, on enchaîne, s'il vous plaît, avec Moshi. Alors, Moshi,
oui,
ça,
bon,
je
non,
connais.
Pendant que j'étais. Dans cette boutique, j'ai regardé les... Bon, et j'ai trouvé que parmi les plus belles coques pour le nouvel iPhone X,
oui,
il y avait effectivement celle-ci de chez Moshi, celle-là. Enfin, qu'ils avaient sorti une gamme
très
hyper
costaud,
celle-là. Une gamme qui est très jolie, mais il y a dans cette
vous
boutique...
Vous avez cassé la table, Victor.
Il y a plein d'autres marques. Il y a plein... Enfin, vraiment, c'est l'essentiel,
oui,
c'est l'accessoire.
Vous êtes un peu le Maïté de l'accessoire. Hein. Vous tapez les trucs comme ça. Oh, on n'a pas pris les tasses, là.
Ça voilà, existe.
Là, il y a écrit Père Noël.
C'est fait pour ça.
Victor, merci. C'était très bien. Bah voilà, on a pris un peu le temps, hein, pour
c'est Noël,
cette sélection,
hein,
de Noël. Donc voilà, vous faites votre marché. Victor, très bonne fête.
Merci François, vous aussi.
Et on se retrouve très vite bien sûr dans De quoi je me mail. Et ce De quoi je me mail de ce 15 décembre est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon week-end si vous vous apprêtez à faire vos achats de Noël. Eh bien, profitez-en. C'est toujours des moments très agréables et uniques. Et puis, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. On sera là, donc, le 22 décembre. À très vite et bon week-end.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net.tv.